15h18, vous êtes sur Radio Béton, le 93.6, dans l'émission des livres et moi. Et eh bien, nous n'avons pas de générique, alors on a décidé qu'on allait vous le chanter, voilà. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, les génériques de Des livres et moi, c'est « Des livres et moi, 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 des livres et moi. » Voilà, et donc émission spéciale aujourd'hui avec donc deux frères, Mathias et François Richard.
Voilà, donc spéciale au quart de tour, donc on invite deux personnes, la première, donc François, édite la seconde personne, son frère Mathias, pour le livre Musique de la révolte maudite. Nous on a choisi de parler de ce bouquin aujourd'hui parce que ça s'inscrit assez bien dans le ton du festival. Donc c'est un bouquin qui parle de musique, de ressenti sur les musiques. Mais avant de parler de ce bouquin que personnellement j'ai trouvé assez touchant, tant il fait part d'expériences dont dans le monde de la littérature aujourd'hui on ne parle jamais de ça, et c'était bien de pouvoir le faire. Voilà, donc messieurs, vous allez vous présenter.
Bonjour, moi je suis François, celui qui édite son frère. C'est pas ma seule casquette à vrai dire, mais bon, on va se focaliser là-dessus aujourd'hui.
Oui voilà, ouais, c'était pour essayer de donner un...
Il faut voir qu'à la base, surtout, il y a la création d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions Caméras Animales, qui ont publié 4 titres à ce jour et qui ont 2-3 ans d'existence. Où d'ailleurs mon frère qui s'appelle Mathias est l'un des principaux dirigeants.
On est deux, donc...
c'est une affaire familiale, là.
Non, il y en a eu d'autres, mais on les a tous virés un par un. Enfin. Par où commencer, en fait, les éditions Caméras Animales.
Bon, c'est à Tours, déjà.
C'est basé à Tours.
C'est du produit local.
Voilà. C'est rue Grossin. Donc c'est parti, bon, nous on a monté ça comme on monte un groupe de hardcore, hein. C'est-à-dire que c'est parti d'une passion commune pour la littérature, pour le rock, et aussi d'un certain dégoût de pas mal de choses, enfin le constat d'un manque, qu'il y avait quelque chose à créer, l'idée d'un décloisonnement de la littérature aussi, qui soit plus lié à des choses un peu viscérales et un peu innovantes. Donc on est parti de là, c'est-à-dire de pas grand-chose, et au final, l'aventure a bien pris. Il y a 4 livres qui ont chacun eu leur aventure et ça continue.
Mais alors vous êtes pas, il n'y a pas de diffuseur, hein, c'est ce que tu m'expliquais hors antenne. Vous n'êtes pas diffusé, ça c'est un travail que vous faites vous-même et que vous ne faites pas forcément dans l'intention d'une expansion d'une grosse machine éditoriale mondiale.
Du domaine de la lutte.
Il y a un côté qui vient justement du. Donc là c'est Mathias, hein, qui vient du côté punk, du côté hardcore, c'est-à-dire DIY, do it yourself. Donc on a vu qu'il y avait un travail qui n'était pas fait aujourd'hui dans l'édition contemporaine, et on a décidé de le faire. On fait pas que des éditions, ça va plus loin que ça, c'est aussi une démarche politique, et on fait aussi de la musique. C'est assez simple, on veut nuire, parce qu'on ne supporte pas cette civilisation, on ne supporte pas cette société. Et ça c'est au niveau esthétique, politique, éditorial, civilisationnel et métaphysique. C'est-à-dire il s'agit d'une révolte et on essaye de s'organiser.
Et c'est une révolte là en l'occurrence perpétuelle, puisque tout le long du livre, là le livre dont on va
essaye de créer les bases, c'est-à-dire qu'il faut du temps, c'est pas juste un après-midi, une journée, on essaye de créer les bases pour une pensée, pour une action. Donc ça prendra sans doute des années et on ne sait pas si on en verra le résultat.
Ouais, on sera peut-être mort.
Mais on veut entretenir une flamme suite au rouleau compresseur qui existe depuis maintenant des dizaines d'années. Donc on veut maintenir une flamme et transformer l'idée de résistance en idée d'attaque.
D'accord. Alors moi, la lecture du livre, je me suis dit que c'était quand même très très présent dans l'aspect esthétique, musical, mais sur l'aspect politique, là, t'en parles assez peu finalement dans le livre.
Mais en fait, la politique, c'est pas seulement faire des discours politiques, c'est aussi faire des actions. La littérature la plus exigeante est politique en elle-même, par son existence, tout comme la musique peut être politique sans forcément avoir un discours politique, mais par ce qu'elle dégage, par son esthétique, elle peut exprimer un refus et une subversion des valeurs métaphysiques à la base de notre civilisation, c'est-à-dire par exemple des valeurs binaires, bien mal. Et par exemple, ça nous amène au premier morceau que j'aimerais passer, c'est-à-dire que ce morceau de Mercury Rêve, ce qui nous intéresse, c'est en fait la complexité sentimentale, pas au sens gnangnan. C'est quand on ne sait pas si c'est de la joie ou de la tristesse, si c'est de la destruction ou de la construction, si c'est de l'amour ou de la haine, quand on arrive à quelque chose d'autre. Et par exemple, dans ce morceau-là, mais dans beaucoup des textes qu'on veut défendre, ou des musiques qu'on écoute, ou des films qu'on aime, ou simplement hors artistique de ce qu'on aime dans la vie, on aime bien quand on dépasse ces oppositions binaires et cette façon de penser super conformiste, pour parler simplement. Et donc ce morceau de Mercury Rêve mélange à la fois le jeu, la joie, le côté dansant, avec en même temps le cri, la douleur, l'insupportable. Donc, et tout ça en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez beaucoup d'autres artistes, comme par exemple Captain Beefheart, etc. Et donc ce morceau-là est assez exemplaire. Par ailleurs, c'est le premier morceau du premier album de Mercury Rêve. Et je tiens à préciser que les Inrecuptibles, et en particulier un certain Christophe Con, à chaque fois qu'il fait un article sur eux, tiens à préciser que leurs deux premiers albums sont inécoutables et qu'après ça devient de la musique, alors justement après c'est devenu de la grosse merde. Donc j'en profite pour faire une dédicace aux Inrecuptibles.
Là on peut en faire beaucoup, ouais.
Corrompu. On va y arriver.
Je crois que Beauvallet et Vivian, ils sont partis de Tours en plus, je crois. Enfin,
oui, ils viennent de Tours. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Tours, mais ils font pas la même chose.
Enfin bon, hein, on va laisser les Inrock.
Oui, je voudrais dire une dernière chose puisque je suis lancé. Ouais. Je voudrais dire mon émotion de parler sur Radio Béton, parce que pour revenir au livre, donc Musique de Révolte Maudite, pour lequel tu m'as invité aujourd'hui. Il n'existerait pas, ou du moins pas sous cette forme, sans Radio Béton, parce que moi j'habite à Paris, je suis parisien, mais j'habitais 14 ans à Tours, de 85 à 99. Donc pendant mon adolescence, mon éducation a été faite en partie par Radio Béton, ça m'a un peu sauvé, parce que on errait dans les quartiers, je jouais les tours. Et donc ça m'a un peu sauvé, vraiment il y a des émissions très diverses, comme Stompède, Loveless, Polycarpe.
Postbellum.
Postbellum, des gens à qui je voudrais rendre hommage, comme un certain Xavier ou un certain Laurent, ou qui est animateur ici pendant des années.
Cyrus Piller.
Je pouvais m'allonger, mettre la radio, et je savais que pendant des heures, j'allais entendre des trucs que je connaissais pas, qui m'hallucinaient, quoi.
Très bien. Ouais. Ça, tu peux encore le faire sur le net, hein. Radiobéton.com de Paris.
Ah oui, bon,
bah. comme ça tu nous sortiras d'autres livres encore sympathiques. On va s'écouter un morceau. Hein. Ouais. On va quand même préciser qu'on va parler de pas mal de groupes pendant cette émission. Et donc à chaque fois, on vous passera un morceau dont le livre traite.
Traite
2. Je tiens à préciser que ce premier morceau commence tout doucement, faut pas s'étonner.
D'accord.
Donc, voilà, donc Mercury Rêve. Let's make everybody in the house.
You can't take me.
Retour donc dans Délivrez-moi sur le 93.6 et on s'est écouté un morceau des Mercury Rêves. Certains auront peut-être reconnu, c'est une reprise donc d'un vieux morceau de blues que déjà les Red Hot avaient fait sur l'album Freaky Style. Enfin, moi au début j'ai cru que c'était les Red Hot, je me suis fait avoir tout le monde dans le studio.
Les Mercury Rêves. Et ce morceau donc de Mercury Rêves correspond au dernier chapitre du livre musique de Robot Maudit qui s'appelle La Mort, avec un jeu de mots sur la mort bien sûr et mort comme plus en anglais. Donc qui correspond bien à ce mélange des ces contraires mêlés, voilà. Mort.
Très bien. Bon, donc ce bouquin hein, musique de la révolte maudite de Mathias Richard. Donc vous pouvez le trouver surtout en tout cas à la boîte à livres. Hein,
je crois, non, livre. À la librairie Le Livre.
Le Livre. Et je croyais qu'on trouvait ça à la boîte à livres.
Pas encore.
J'avais pas compris.
Pour se procurer le livre, soit si on habite à Tours, on va à la librairie Le Livre. Sinon, on va dans n'importe quelle librairie, on le commande, mais faut attendre 3 jours. Ou par internet, où on peut le commander directement. Et le plus simple, c'est d'aller directement à la librairie Le Livre.
D'accord, très bien.
Sachant qu'il y a un site camerasanimales.com.
Ok. Et il y a d'autres bouquins, hein. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a 3 autres. Donc là, François, tu peux nous en parler un peu?
Bah, effectivement, là, celui de Mathias, c'était un bon coup d'envoi, disons. Bon, c'est moi qui avais demandé à ce qu'on le fasse pour lancer cette aventure-là. Donc les 3 autres en 2004. Après, il y a eu un livre de Li Tantian qui est un danseur poète, complètement inclassable aussi. En 2005, et ben 2 livres. Un livre qui s'appelle Vitriol de Arnaud Pelletier et un autre qui s'appelle Crevard, sous-titré Baisse Solers de Thierry Théolier. Les 2 livres sont sortis simultanément à peu près à la rentrée 2005.
En novembre.
Ouais. Donc on était assez content de cette affiche Vitriol Crevard là en novembre 2005.
Dont on était moins content, c'est qu'hélas l'auteur de Vitriol est décédé le jour là où il a eu son livre entre les mains.
Oui, en juin 2005. Ouais.
Donc ça,
on approche de l'anniversaire de sa mort d'ailleurs. Donc c'est sûr que l'été 2005 était un peu spécial. Nous, ça nous a on sait pourquoi on fait les choses maintenant.
Mais sachant que c'était un ami à vous, hein.
C'est un ami, ouais.
Bah, c'est d'abord quelqu'un qui nous a envoyé un texte. Faut quand même le préciser, on l'a pas édité parce que c'est un pote.
D'accord.
C'est devenu okay. un pote après.
Ça a commencé comme ça, d'accord.
Ouais.
Pour être précis, il m'avait appelé. C'était un écrivain qui s'appelle Hubert Haddad qui lui avait donné mon contact. Parce que cet écrivain lui avait dit qu'il pouvait dialoguer avec moi sur la littérature, qu'on se comprendrait bien. Mais c'était pas par rapport à l'édition au départ. Et puis, des discussions comme ça, nocturnes, parce qu'il était assez insomniaque, qu'on commençait pendant plusieurs jours d'affilée, où il se livrait complètement. Je crois que le premier coup de fil qu'il m'a passé, il a commencé à me dire qu'il s'était enfoncé un cutter deux fois dans la gorge. Donc c'est sûr que... Bon, ça crée des liens, parce que... Mais, disons que moi, je ne savais pas comment réagir au début, parce que je sortais des périodes moi-même pas très faciles à ce niveau-là. Je ne savais pas si je pouvais devenir comme ça celui qui réconforterait quelqu'un qui avait vécu ça. J'étais un peu... J'étais tout juste sorti de ça. Donc.
D'accord. Oui.
Ça a été par étapes. Il y a eu des étapes de disparition d'Arnaud Pelletier. On n'a plus de nouvelles, alors qu'on voulait commencer à travailler sur le livre. Il y a eu tout un tas d'épisodes. C'était quelqu'un qui était assez dans l'autodestruction... sans se retourner en arrière.
Dans la vie aussi, hein. Parce qu'il disparaissait pas seulement dans les hôpitaux psychiatriques, mais des fois tout simplement parce qu'on le retrouvait à jouer de la guitare dans la rue, faire la manche à Orléans ou je sais plus, à Besançon.
La Reine.
Dans un cirque. Mmh. Donc c'était aussi quelqu'un plein de vie. Hein.
Et donc, quelques jours, le jour où il a reçu son livre, en fait, il avait reçu quelques jours avant qu'on se rencontre. Par la poste, il m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie, qu'il était heureux. Et donc c'était au marché de la poésie à Paris, là, vers le 24 juin, qu'on s'était rencontrés, qu'il avait eu ce livre dans les mains, puis un autre livre qui paraissait simultanément. Et voilà, lui qui avait surmonté tant de choses, on pouvait penser que ça allait commencer pour lui. Et donc voilà, il est mort accidentellement le soir même. Voilà, je lirai un extrait de son livre à la fin de l'émission.
Très bien, ouais. C'est marrant, mais ce parcours d'Arnaud Pelletier avec vous, quelque part ça illustre peut-être assez bien aussi le travail de Caméras Animales.
En fait, on sait pourquoi on fait les choses, vu qu'aujourd'hui il est mort, et si on n'avait pas sorti ce livre, le manuscrit serait peut-être détruit dans un tiroir et ça n'aurait jamais eu lieu, donc... Tiens.
La sirène. On a un fond sonore là qui.
C'est pour égayer un peu.
Ça égaye, oui.
Mais on n'est pas là pour, casser l'atmosphère. C'est juste pour dire qu'on fait les choses à fond, avec des gens qui se donnent totalement, que c'est pas de la blague, même si.
Bon, l'autre auteur qu'on a édité, Thierry Taulier, nous a dit qu'il essaierait de pas mourir avant la sortie du livre.
Lui, il disait qu'il y avait un crevé, lui, c'est le crevard. Voilà.
D'accord.
Donc Thierry Taulier, c'est un autre genre encore. C'est un pirate de la hype parisienne, la jet set parisienne, donc qui est spécialisé dans l'incruste des soirées,
mondaines, branchées.
Spécialisé pour s'y infiltrer, foutre le bordel. Il a créé quelque chose qui s'appelle le syndicat du hype, où il y a maintenant 3000 inscrits. Donc ils falsifient les cartons d'invitation, ils se font des fausses identités pour entrer dans les cocktails, les soirées jet set, profiter de l'open bar, boire, manger des petits fours, et puis de temps en temps péter les plombs.
Ils sont rien en rock ou...
C'est aussi quelque chose qui est très lié à Internet, parce que les rendez-vous se donnent au dernier moment. Il y a vraiment des techniques d'infiltration. Et c'est basé sur des listes Yahoo sur Internet, où donc il y a beaucoup d'échanges, et au bout d'un moment finalement c'est pas seulement incruster les soirées, c'est aussi ça rassemble finalement à Paris, mais ça aussi s'est mis dans certaines villes de province, ça rassemble les gens qui en ont marre, ou qui des marginaux, des artistes ou des excentriques, donc des gens très différents, ou simplement aussi des hypeux qui veulent faire partie de la hype. Donc ça rassemble des gens très différents sur des listes où il y a des milliers de messages tous les jours. Et ce bouillonnement finalement entre vie et Internet a créé entre autres le livre Crevard Bestsellers, qui donc
restitue un peu ce bouillonnement.
Donc, on a rassemblé, il n'y a pas tout, hein, mais on a rassemblé quelques des écrits de Thierry Taulier, écrits par des mails, sur des blogs. Ou sur son carnet personnel qu'il a écrit de 2002 à 2004 à peu près.
Là c'est Haro sur tout, hein, les Inrock, les Altermondains, Naomi Klein et tout ça. Hein. Enfin, moi j'ai lu des passages qui m'ont fait beaucoup rire là-dedans. Ça tape aussi dans la hype de gauche ou d'extrême gauche. Et ça, j'avoue que ça m'a fait jubiler. Parce que
le principe des casseurs du hype, c'est plus hype que la hype, ils t'emmerdent. C'est-à-dire, ils cassent tout quoi. À commencer par les casseurs.
Très bien.
Bon. C'est l'idée de la Blank Revolution, je crois.
Casse-toi toi-même pour te connaître, je sais.
La Blank Revolution, à la fin, il n'y a plus rien, quoi.
Est-ce que c'est un peu nihiliste comme
Oui, d'ailleurs, personnellement, je j'approuve pas forcément le nihilisme. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous a touché. C'est quelqu'un qui nous a touché. Quelqu'un qui, d'une certaine manière, représente aussi, comme j'ai écrit sur la couverture, le pire de l'époque. C'est-à-dire qu'il a été jusqu'au fond du pire. Il a pris la logique de l'époque. Il l'a pris à fond, quoi. Ok, la hype. Ok.
Les SMS.
Les SMS. Ok.
L'écriture torchée.
Ok, on torche tout. On dit n'importe quoi. On est nihiliste. Et ben, il va jusqu'au bout. Et donc,
en allant au bout,
bon gré mal gré, on peut dire qu'on peut finir par traverser l'époque à force de la pousser dans ses extrêmes. Ou au pire, tout bêtement, ça leur fournit une illustration intéressante et instructive.
Et pour Tolier, moi, ce qui m'a touché, c'est que, bah oui, le nihilisme, mais on est dans le domaine de la littérature, justement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le plan politique avec un discours. C'est-à-dire que dans le domaine de la littérature ou dans le domaine de la création générale, il faut absolument se permettre tout ce qui n'est pas moral, tout ce qui est de la libération intérieure, de tout ce qu'on a envie de dire, de tout ce qui... tous ces flux qui excèdent et qu'on a envie d'extérioriser, il n'y a pas besoin forcément de mettre de la pensée là-dessus. Au contraire, ça peut être très fort quand on...
C'est l'idée donc de la raison basse, c'est-à-dire qu'il faut savoir se débarrasser de la raison. Quand la raison... C'est quoi la phrase déjà de Surya, hein ?
Il faut nier les forces de la raison, quand les forces de la raison ont la puissance de nier les forces de tout.
Il faut nier... les forces. Il faut nier les forces de la raison quand la raison a la force de nier tout. C'est-à-dire, au nom de la raison, aujourd'hui, plus aucune pensée, plus aucun geste n'est possible. Et des fois, il faut s'en débarrasser pour pouvoir avancer. On incite un peu là-dessus parce qu'il y a vraiment un gros rapport à caméras animales. C'est-à-dire, dans caméras animales, il y a animal, c'est-à-dire, il y a un rapport au corps. C'est-à-dire, aussi, ça peut servir de tremplin et de...
Disons que
j'ai perdu ce que je voulais dire.
Le leitmotiv, c'est raison basse, le leitmotiv. C'est-à-dire, justement, on crée un espace où on lâche tout, quoi.
Oui.
Et ça crée des choses qu'on ne lit pas d'habitude, qui sont. Même le livre de Mathias, le livre de Tiens, les quatre livres, en fait, même le livre d'Arnaud, on lâche tout et on emporte ça dans quelque chose qui transcende en quelque chose de très fort, très beau.
D'où l'importance du rock, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans le rock, on trouve une énergie que beaucoup ont perdue dans les autres domaines, dans la littérature, par exemple. Nous, ce qui nous a poussé vers la poésie, vers la littérature, c'est la même énergie qui pousse à d'autres à faire des groupes punk ou des groupes de hardcore.
Ouais, ça fonctionne en fait comme un exutoire de nos propres perversions, peurs, enfin tout notre inconscient aussi. Si je
exutoire,
bien, en fait,
hein. Mais aussi préparation mentale, comme disait Mathias. Hein.
C'est-à-dire
qu'il faut des libérations intérieures.
Il y a une martialité, c'est-à-dire aussi vraiment une martialité, pas au sens militaire, mais au sens de l'exigence vis-à-vis de soi-même, de se préparer face au monde, de préparer des défenses et des modes d'attaque, préparer des pensées, préparer des attitudes. Donc se préparer des armes, écrire pour des armes. D'ailleurs, je sais plus où c'est que j'avais écrit un truc par rapport à pourquoi aller écrire.
Ouais, c'est...
Écrire pour se fabriquer des armes et des vertiges, écrire pour s'exploser la tête, être partout à la fois, être traversé par des vents psychiques, glisser sur des toboggans en 20 dimensions. L'écriture n'est pas un art artistique, l'écriture est un art martial psychique. Et j'avais rajouté cette connerie, écrire pour s'exploser la gueule, écrire pour mourir, se shooter, prendre des pensées en otage ou en stop.
Ah super. Bon bah
l'idée pour moi c'est vraiment créer des espaces de libération intérieure. On nous a inculqué des carcans, des modes de pensée, de fonctionnement. Il faut des espaces où ça se libère et qui soit cet espace libéré peut être le terreau d'une vraie pensée.
À partir de ça, le politique est possible. Il faut d'abord se délobotomiser.
On parlait de nihilisme, mais il n'y a pas que ça. Enfin, là, on pourrait aussi rapprocher ça de tout le mouvement situationniste, parce que
beaucoup plus. Nous ne sommes pas nihilistes. Au contraire, nous souffrons du nihilisme ambiant.
D'accord.
Voilà. C'est beaucoup plus proche d'une pensée, même si le situationnisme a vieilli, on est beaucoup plus proche de pensées de critique de la société.
Ouais.
Par exemple, moi je suis pour la destruction de la télévision. Je pense que quoi qu'il y passe, de par son fonctionnement même, cette structure est une structure de domination de masse.
Ouais.
Même si on peut y voir des bons films, des choses intéressantes.
Donc, bien sûr, mais ça c'est comme pour tout moyen de diffusion. Ouais.
Ben, en fait, c'est le pire, parce que c'est audiovisuel et ça à sens unique. Par exemple, je dirais pas ça à l'internet.
Ouais.
Donc je dis pas ça de tout. Je pense vraiment que la télévision est quelque chose de bon à détruire.
D'accord. Et est-ce que tu penses, là on va rapidement sur la question de la télévision, est-ce que tu penses que quand même on peut On peut travailler sur la question de l'image autrement que comme elle existe aujourd'hui massivement, donc la télé. Je sais pas, des expériences comme Sans Canal Fixe à Tours, des choses comme ça.
Ça, je trouve ça formidable.
C'est chouette. Ouais,
mais bon, c'est archi minoritaire.
Ouais.
Mais bien sûr, c'est exactement ça qu'il faut. Mais si on est réaliste, et là, c'est pas vers ça que va la télévision. Enfin, peut-être que je me trompe. Ouais, mais
je crois pas. Si mettons, on libérait les ondes de la télé comme on l'a fait pour la radio. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aussi sortir de ce merdier?
Pour la radio, il y a quand même un rouleau compresseur. Heureusement, à Tours, il y a quelques bonnes radios. Moi, j'habite à Paris, c'est terrible. Moi, je suis un fou de radio, je n'ai pas la télé. Je tourne le curseur, j'ai beaucoup de mal à trouver des radios ou avoir quelque chose à écouter.
Oui, c'est sûr, mais c'est aussi ce qui a provoqué la libération des ondes. Hein. Ça a donné des trucs comme énergie, il faut le dire.
La libération des ondes, ça a été très bien, mais maintenant, on assiste à des regroupements. Maintenant, c'est les radios commerciales qui emportent tout. Puis, il y a une massification. C'est comme les supermarchés, il n'y a plus de petits commerces, mais par contre, les supermarchés, pour moi, c'est la même chose pour les radios, quoi.
Ok.
Bon, excuse-moi pour cette phrase.
Non, mais c'est plus ou moins bien torché. On va s'écouter un second morceau sur le 93.6 Radio Béton, c'est les Dead Tigans.
Ah.
Yeah.
Et oui, toujours avec Fabienne et Manu.
Super enchaînement.
Délivrez-moi sur le 93.6. On reçoit toujours François et Mathias Richard, donc pour le bouquin Musique de la révolte maudite. Et on s'écoutait les Dirty Guns. C'était quoi exactement?
C'était Transline, Disappointment, leur deuxième album. Et c'était le premier morceau qui s'appelle The Map. C'est un morceau que j'ai découvert sur cette radio grâce à un animateur qui s'appelait Xavier. Et c'était un de mes morceaux préférés, d'un de mes groupes préférés.
Ben voilà, donc special dédicace à Xavier sur les ondes du 93.6. Et on va se faire un... On va lire un petit passage du bouquin que je trouve assez représentatif du livre. Maintenant, Mathias, tu me corrigeras après.
Je te corrigerai, oui.
Oui, oh oui. Et donc, oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais là, on a des fouets, on est habillé cuir, tout ça. Enfin bref, c'est...
Moi, je suis attaché à la technique.
Et voilà, Fabienne est enchaînée à la technique.
En fait, on est des moustachus à casquette avec des fouets.
Mais pareil. Voilà, et on écoutera YMCA, un de ces quatre là dans l'émission. Ouais.
Moi je ferai l'Indien.
Voilà. Moi le flic.
Mort au flic.
Voilà, bon, bah, ça c'est dit, on voulait le dire. on va lire un passage du chapitre Les musiques sont des villes. Voilà. On peut craindre la musique que l'on aime. Savoir qu'il ne faut pas l'écouter, qu'elle touche à des choses qu'il ne faudrait pas réveiller. Chaque musique ravive en détail toute une époque, une période de sa vie. Il y a des musiques que l'on craint par-dessus tout, dont on se cache comme l'on se cache de la vérité, et que l'on hérite de jour sur son poste pour garder une humeur égale, un équilibre de surface. La musique a déjà été connue par cœur et intériorisée, puis enfouie, mais on sait qu'elle est là, prête à se réveiller comme une vieille plaie, à déchirer sa tombe et à se diffuser dans tout le corps. Intensité rouge palpitante se décomposant peu à peu en réseau rosé dans le gris, s'étendant jusqu'aux plus fines nervures et ramifications. Voilà, donc c'était un passage. Tu veux réagir un peu sur ce passage, Mathias?
C'est un très bon passage.
Moi, je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, c'était très bien.
En fait, c'était écrit pour Andy Scarcrash, mais j'ai pas amené le disque, donc on va mettre autre chose.
Ouais. Donc ça aurait été bien de pouvoir illustrer, mais bon, après là, c'est un propos quand même.
Ceci dit, ça peut correspondre à beaucoup de morceaux, ouais, voilà. Chacun a les siens. Donc le morceau qui vient après sera parfait, j'en suis sûr.
Très bien, on va s'écouter le groupe Gate.
Voilà.
terrible.
Ah oui, sacré jingle quand même. Ah, on l'avait pas encore mis dans cette émission, mais ça change un peu, c'est bien ça. Alors donc on continue cette émission spéciale pour au quart de tour autour du livre Musique de la révolte maudite. Voilà donc un livre de Mathias Richard édité aux Caméras Animales, éditeur Tourangeau. Voilà et on va vous parler aussi d'autres choses. Et pas que de ce livre, parce que vous savez qu'il y a un concours qui s'appelle le concours Rock Attitude. C'est un concours de nouvelles. Là, on va vous faire une lecture je vais vous faire une lecture pas la nouvelle lauréate, mais la seconde, qui s'appelle Qu'est-ce que je foutais dans le pogo. À Béton, on a décidé de l'éditer dans le journal d'au quart de tour, hein, parce qu'on trouvait qu'elle collait bien avec l'esprit de la radio et du festival. Et pour le coup, moi, en le lisant, je me suis dit, tiens, ça colle aussi un peu, mais un tout petit peu, avec le livre de Mathias. Et on va essayer de faire le rapprochement là, tout de suite. Moi, je vais vous lire le début de la nouvelle, Qu'est-ce que je foutais dans le pogo. Et après, Mathias vous lira un passage du bouquin qui traite, décidément, j'ai du mal.
Traduit.
Ouais, c'est à force d'insulter les gens.
Non, pas des traîtres.
À force d'insulter les gens de traîtres, j'en finis à l'employer tout le temps. Bon, bref. Donc, qui traite du pogo. Voilà, et donc qu'est-ce que je foutais dans le pogo. Et je vous invite à lire la suite, bien sûr, dans le journal au quart de tour. Ce soir-là, il est 21h45. La position est intenable. Les secondes s'égrènent. Le tympan à s'enfuir de l'oreille, des manifestations diverses. Cris d'animaux, insultes en arabe, en slave et bientôt en chinois. Chants religieux monothéistes, puis polythéistes. Imprécations en bachibouzouk, honteux bruitage électronique ou téléphone mobile, ou plus prosaïquement, quelques injures autochtones bien connues. Émerge avec une fréquence de plus en plus rapide, de la fosse mouvante et toujours plus agressive. À 22h, l'agitation soudaine autour de la table de mixage et le clignement d'une lampe torche, agitée par un Rhodes sémaphore dans son éternel t-shirt Motorhead, annonce le début des hostilités. Les lumières s'éteignent, la clameur monte comme un raz-de-marée, un coup de grisou extraordinaire. C'est la cohue. 50, 100, 1000, des visages grimaçants, agités d'étranges rictus, certains l'œil torve, en bavent déjà. 22h02, les borborigmes indigènes de la musique d'intro couvrent à peine le ronflement des amplis. Prudent sur ma gauche, un trentenaire malthusien ajuste des boules quièces généreusement offertes à l'entrée avec les préservatifs assortis par d'accordes jeunes filles en uniforme à jupette orange circulant en patins à roulettes. Sur leur casquette, le logo d'un marchand de clopes américaine. Chez les murs, des panneaux interdits de fumer. Contradiction que seuls les actionnaires des fonds de pension made in Floride peuvent comprendre. Voilà, donc vous m'excusez, hein, j'ai un peu du mal, j'ai toujours pas mangé.
On t'excuse, on te donnera à manger après.
La lecture était pas terrible. Mais bon, voilà, ça vous donne un peu le ton de cette nouvelle.
C'est enlevé, oui.
Et voilà, en tout cas, nous, elle n'a pas été, c'est pas la lauréate, hein, parce que c'est un concours qui se fait aussi avec l'Université François Rabelais. Et donc, la nouvelle lauréate, hein, le Scrabble, vous pouvez la trouver en. Elle a été pressée en disque, hein, et dans le livret, il y a la nouvelle. Vous pouvez la trouver, je crois, à la boîte au livre et puis sur le site d'au quart de tour. Voilà. Mais là, donc,
cas, j'ai bien aimé le passage où on ne sait pas si on parle de capote ou de boule caisse. Et voilà. Peut-être on devrait inverser un peu pour voir.
Ouais. Enfin bon, donc, qu'est-ce que je foutais dans le pogo? Elle vous
note. On vous a dit, on est en cuir.
Ouais, voilà. Pour la nouvelle, qu'est-ce que je foutais dans le pogo? Elle, vous pouvez que la trouver donc sur le journal au quart de tour. Voilà, elle est en entier. Je vous invite à la lire en entier. Voilà. Donc nous, on va vous lire
donc à propos du pogo, bon, moi le pogo et le slam c'est un de mes sujets préférés, hein. Je crois que je pourrais écrire environ 2000 pages sur le sujet. Je vais simplement vous lire un passage pour le coup, un passage un peu théorique sur le sujet. Donc accrochez-vous,
partez pas.
Le barattage public-public et public-artiste est accentué par les rituels d'indifférenciation que sont le pogo. Sous, choc, pression des uns contre les autres. Les autres comme appui, trampoline et amortisseur, projectiles et protection, danger et ange gardien, multicollision, devenir électron des spectateurs devenus acteurs, rebondissant les uns sur les autres comme des fusées tamponneuses dans un flipper sursaturé. Et le slam, saut de la scène dans le public, surf des uns sur les autres jusqu'à finir écrasé par terre, parfois piétiné, irruption du public sur la scène, irruption des artistes dans la salle, au contact le plus direct des spectateurs, par la peau, main, tête, tibia. Si l'on ne comprend pas ce qu'Arto a voulu dire par cruauté, il faut regarder un pogo, mieux y participer, dans lequel nous semble apparaître concrètement le principe même de la cruauté. Un pogo, une sorte de bagarre générale et impersonnelle, un fouillis de cellules, vie passionnée et convulsive, fourmillement, foisonnement, bataille, conflit, étreinte, fusion et fission, la fulguration du pogo, crépitement du feu de vie, de l'impulsion irraisonnée à la vie, brutales déportations territoriales enchevêtrées, multipliées jusqu'à effondrement ou expulsion, vie violente, application, agitation de masses importantes jetées les unes contre les autres et convulsées, espace où chaque vie plus forte passe à travers les autres, donc les mange dans un massacre.
Ben voilà, ça donne le ton du livre, c'est un chouette passage aussi du bouquin. Et puis bah voilà, hein, c'est le côté un peu viscéral de l'écoute dans un concert et puis de tous ces gestes.
De l'écoute par le corps.
De l'écoute par le corps, voilà. Toi tu appelles ça le enfin, il y a une histoire de sang, son.
Oui,
pas le tabac, s'il vous plaît.
Nous sommes des corps vibratiles ou vibratoires. Donc l'écoute se fait pas seulement avec les oreilles, mais avec tout le corps. Et quand on commence à rentrer en vibration, on peut rentrer en transe, on peut faire du pogo, ou on peut faire d'autres choses selon les civilisations. Le rock, c'est pas quelque chose qui date d'Elvis Presley, c'est quelque chose qui date depuis la naissance de l'homme, qui a pris différentes formes en Chine, en Afrique, en Asie, en Amérique. Chez nous, ça a pris la forme du rock, mais l'énergie est toujours là.
Ouais, c'est
partout.
Le corps.
Si je puis lui préciser, nos corps sont faits de temps, donc nous sommes soumis à la musique.
Tu fais quoi qu'est-ce que tu fais des insoumis?
Alors lui, c'est le cas se rebiffe.
Pourquoi vous riez?
Non, mais c'est, qu'est-ce que tu fais des insoumis? Tu penses qu'on est obligé de se soumettre au son?
Bon, on est en cuir, on est soumis les uns aux autres.
<C'est>... ouais, non, mais hors contexte émission là. Tu veux dire, bon. Est-ce que tu penses que...
Moi, quand il lit ça, je comprends assez ce qu'il veut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont au fondement même de nos cellules. Qu'il n'y a pas de différence entre le temps, l'air et puis ce qu'ils nous font intérieurement. Et c'est pour ça qu'on se reconnecte à quelque chose de divin, de sacré. Enfin, je sais pas quel mot exact pour pas tomber dans des trucs connotés. Mais quand on écoute de la musique, on est en rapport avec...
Pour prendre les termes de Georges Bataille, qui utilise ce mot-là pour le sexe, comme pour la fête et l'ivresse, ou pour le sacré, il s'agit d'indifférenciation. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas un état de rupture, c'est au contraire le seul état où on revient à ce qu'on est. Et donc, indifférenciation avec soi-même et avec les autres. Bon, ce sont souvent des moments très brefs.
Et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est une réponse à tout qui n'a pas de sens, d'articulation, c'est là et. Et tout d'un coup, on sait la valeur des choses. Et ça met en perspective pas mal de choses du quotidien.
Bon, bah, on va faire un pogo là. Hein. C'est un pogo sur Headache, qui est juste en
ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
Alors attention.
Attention, ça va pogoter dans les studios.
C'est un slow.
Ah oui, c'est un slow, ouais.
Ah mince.
You suck.
Mais si, justement, c'est pratique, on peut pogoter. We'll be right back.
16h10, vous êtes sur Radio Béton le 93.6 avec Manu et Fabienne et François et Mathias Richard. Donc dans une émission spéciale, Déli, vrai, moi.
Eh oui, donc spécial parce que c'est au quart de tour, vous le savez tous. Hein. Et d'ailleurs, ben, je vous invite hein, à aller dès 18h pleine de la Gloriette pour le Chapitoc. Hein. Et ce soir, donc, c'est les Concoy et j'oublie les Tagada Jones. Voilà. Voilà. Donc c'est à partir de 18h à la Gloriette. Nous, on va revenir un peu à notre histoire donc d'édition. Hein. Là, en l'occurrence, c'est Caméras Animales qu'on reçoit aujourd'hui avec François et Mathias Richard. C'est un bouquin, donc je pense autrement si vous n'avez pas pris l'idée de publier par vous-même ne serait jamais édité, je pense. Non, c'est.
On peut pas trop savoir en fait.
Ce qui est marrant, c'est que bon, par contre, il a été d'abord publié par extrait dans différentes revues. Hein. Des revues soit de philosophie, soit de musique, soit des fanzines. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ça donne toujours l'impression qu'il n'y a pas de place dans l'édition française pour ce genre de livre qui est incassable. C'est-à-dire, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si c'est de la pensée, de la philosophie, de la critique rock, de la poésie. Mais par contre, une fois qu'on le sort, c'est fou, tout d'un coup, tout le monde trouve ça très bien. Et on a eu un très bon écho critique dans la presse, etc. Donc on s'aperçoit que c'est très difficile de faire passer certaines choses, mais une fois qu'elles existent, elles sont vues et parfois reconnues.
Ouais, mais il faut quand même parler de cette difficulté de le faire exister.
Ah ça, oui, c'est même très très important, parce que dans le fond, il y a peut-être des choses plus intéressantes dans la vie que faire des éditions, mais comme je te disais au début, on est passionné de musique, on est passionné de littérature, et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'en France, il y avait un travail qui n'était pas fait. C'est-à-dire qu'on connaît bien le milieu de l'édition, on s'y intéressait de près, il y a des éditeurs dont on apprécie le travail. On trouve qu'il n'y a personne qui va assez loin et dans la direction qui nous intéresse. Donc on a dû finir par créer quelque chose.
Ouais, c'est quand même le milieu d'édition, il faut le dire, hein, c'est un milieu complètement verrouillé, c'est comme le milieu du journalisme, du cinéma, c'est encore le pouvoir qui fait les choses.
C'est un des pires, parce que c'est un des milieux en France qui est le plus conformiste.
Ouais, et puis c'est fait de petites questions de pouvoir, ainsi de suite. Enfin, je crois
C'est pour ça que malgré tout, le livre de Thierry Théoli est assez sain. Parce que donc dans Crevard Bessolers, il casse complètement le milieu parisien. Et habitant à Paris, je dirais même qu'il est encore en dessous de la réalité. Quoi. C'est très difficile d'être dans la littérature et dans l'édition sans se compromettre.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même un. Alors il y a plein de gens qui vont glorifier tel éditeur ou tel écrivain. Mais on se rend pas compte à quel point justement il y a des batailles derrière tout ça, alors que ce soit au niveau des industries culturelles, hein, même chez les petits éditeurs.
À notre simple échelle, donc excuse-moi François, hein, je vais te laisser parler. Pour Crevard Bessolers,
je suis baïonné pour l'instant.
C'est un livre qui casse entre autres donc Bec BD, etc. Enfin toute cette clique parisienne qui a le pouvoir actuellement et qui pue et qui profite de son pouvoir pour étouffer complètement la création contemporaine. Bon, par exemple, à notre échelle, donc, on a été contacté par le grand journal de Canal+, qui voulait faire un sujet sur ce livre. Et Bec BD, au dernier moment, donc ils avaient préparé quelque chose, a utilisé son pouvoir pour que ça soit annulé. Idem pour Radio Nova, qui était cassé dans le bouquin. Donc au dernier moment, quelqu'un a annulé une émission à Radio Nova où il devait parler du livre. C'est pour des raisons complètement extra-littéraires, où c'est juste, si tu veux pas faire ce que je te dis, Eh ben, je te laisse pas avancer, quoi.
Voilà.
Là-dessus, notre force et notre faiblesse, enfin notre force malgré tout, c'est que, bon, étant totalement indépendant, bénévole, non professionnel, on suit notre route sans trop se faire influencer par ce genre de trucs. Même si des fois ça nous rendrait service d'avoir des entrées, je pense par exemple à la diffusion, bah tant pis, on fait un truc, on a créé le site internet, ça se passe pas mal par là. Plus une diffusion parisienne et puis tout rangel autogéré, quoi.
Je pense qu'on a tout à gagner en étant en faisant ce qu'on a à faire de la meilleure façon, et je pense que dans le fond c'est ce qu'attendent les gens aussi. Donc là-dessus il n'y a pas de doute, c'est même pas une idée de sacrifice, c'est on fait la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est-à-dire on les supporte pas, on n'est pas comme eux, on veut pas être comme eux,
Le mot irréconciliable.
C'est pas le même monde, ouais. C'est irréconciliable. Ouais. Et tant qu'on existera, ils seront pas tranquilles.
À ce titre, la fin du livre de Mathias est assez intéressante. Ouais.
D'accord.
Quelque chose du manifeste, ouais.
Au-delà de tout ça, la difficulté, vous avez quand même eu, c'est ce que tu m'as dit, François, la difficulté d'arriver à être lu à d'autres endroits que dans vos environnements proches, non? Enfin, tu me dis, parce que tu parlais d'un bon retour critique, oui. Mais est-ce que quand même il y a eu, le bouquin a été diffusé d'une manière.
Il y a plusieurs sujets. Je vais essayer d'être très rapide. Il y a la presse.
Ouais.
Donc il y a la diffusion dans les librairies. Donc la diffusion dans les librairies, c'est un sujet très compliqué parce que pour être très rapide, quand on passe par le circuit professionnel, on l'a découvert peu à peu. Sur le prix d'un bouquin, le circuit prend environ 70% du prix du bouquin. Donc en plus, si on paye l'auteur, il restait plus rien. Je dis ça parce qu'au début, on n'a pas trouvé de diffuseur, donc voilà. Mais après, on en a trouvé. Mais on a réalisé qu'économiquement, on préfère encore vendre par Internet et nous-mêmes des livres que passer par circuit professionnel sur lequel on aurait peut-être vendu plus de livres, mais on ne gagnait rien du tout, voire on perdait.
Ouais, c'était une activité à perte.
À long terme, peut-être qu'on passera finalement par un circuit de diffusion et on cherche des diffuseurs indépendants avec un bon esprit. On est en relation avec plusieurs, mais je préfère pas trop développer parce que c'est en train de se faire.
Ouais, c'est, ok. François, non, tu voulais rajouter
Oui, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui est compliqué avec les diffuseurs, c'est qu'il faut un calendrier précis, annuel, etc. Enfin, on tient à garder notre liberté aussi.
D'accord, ouais.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve très vite bâillonné, on signe avec un diffuseur, puis en fait, ils nous disent oui, alors en mars, en juillet, en octobre, il faut que vous sortiez un bouquin, on s'en fout de ce que c'est. Alors que nous, au contraire, on veut faire que des bouquins qu'on veut faire, et s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a pas de livre qui nous intéresse, on ne sort rien. On veut faire que des bouquins nécessaires.
Donc, on en prépare un qui va nous prendre toute l'année, je pense, mais voilà.
Super, ouais. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on parle de ça parce que ça permet de faire un éclairage sur quelque chose que les gens connaissent assez mal en fait, hein, la question de la diffusion, de la littérature.
Ben en fait, pour la diffusion, le point positif c'est Internet. C'est-à-dire qu'Internet permet à des petites structures d'exister, d'être diffusées, d'être connues. Par contre, c'est clair que le milieu de l'édition, c'est un milieu en ce moment de restructuration, de je sais pas comment dire, de conglomérat, de fusion, voilà, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'éditeurs, tout s'organise en grands groupes, ce qui fait que au niveau partout de la diffusion, ça devient un rouleau compresseur où il va avoir les mêmes bouquins partout, même à supermarché, au Champ, etc. Et à côté de ça, il y a très peu d'espace dans le circuit professionnel pour des livres comme les nôtres. Mais je voudrais pas terminer sur ce côté négatif parce que nous, on se bat justement pour le contourner.
Et là, tu parlais de la diffusion, mais du côté presse, le côté presse, lui, est très positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait des gros services de presse.
Ouais.
On peut envoyer 100 exemplaires, au moins. Et il y a des réactions inattendues. Ouais,
La presse
permet, c'est porteur.
Permet de court-circuiter le système. Pour prendre le mot de Thierry Taulier, donc un de nos auteurs, qui est un pirate médiatique. C'est-à-dire qu'il a fait la couverture, en 2003, je crois, il a fait la couverture de Technicart en ne faisant strictement rien. C'est-à-dire, ça prouvait l'inanité du système médiatique. C'est-à-dire qu'il leur a fait croire qu'il faisait quelque chose, etc. Et il a fait la couverture de Technicart. Donc, c'est juste pour dire que les médias, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur de désinformation.
Ouais.
Mais c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé. Et puis, aussi, il y a tout bêtement, aussi, quand même, heureusement, des gens sensibles qui écrivent parfois dans certaines revues, certains magazines ou certaines radios, etc. Donc, on a trouvé des appuis parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ont vu qu'on faisait quelque chose d'assez à part et que finalement pas mal de gens attendent.
Oui, ça, on le sent très fort, oui.
Très bien.
Il y a des réactions vraiment passionnées. Ça correspond à un besoin, oui, je pense.
En fait, on a eu des réactions inespérées par rapport au fait qu'on parte de rien. On part vraiment de rien. On est de mecs, de frères. On n'a même pas tellement de thunes. Donc, par rapport à ça, pour l'instant, on est très heureux de ce qui se passe.
Très bien. Bon, on va s'enchaîner avec un...
T'as peut-être quelque chose à en dire aussi, toi?
Bah, moi, je trouve ça très intéressant, hein, de votre expérience. Parce que c'est vrai que ça... Je pense que c'est une manière aussi, aujourd'hui, d'arriver à diffuser autre chose.
Oui, il faut préciser que donc là, à part moi, hein, y a quand même trois autres auteurs, et que ces trois auteurs que nous trouvons importants, et plus qu'importants, essentiels, ne trouvaient pas éditeurs.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi un travail qui reste à faire et qu'on essaye de faire.
Il y a un contrôle au niveau du fonds par les éditeurs ?
Ah oui, plus qu'un contrôle, on travaille en étroite collaboration avec chaque auteur. Avec les textes qu'ils nous envoient, on essaye. C'est rare qu'on prenne le texte tel quel. En général, il y a un travail de plusieurs mois, voire pour certains d'un an, sur le texte.
Vous, à Caméras Animales, vous faites ça aussi donc avec eux, avec vos auteurs, François, par exemple. Enfin, tous les deux, vous travaillez avec les auteurs.
Oui, on fait même. Bon, là, on n'a pas pu, mais ça nous arrive de faire des performances, des interventions, on est tous ensemble. C'est-à-dire que, bon, là, on n'est qu'au début de Caméras Animales, mais on espère faire une sorte de groupe.
D'accord.
Même si chacun a son autonomie.
Ce que je voulais dire, c'est aussi, enfin, quand on passe par des grosses maisons d'édition, on n'a pas la libre parole. En fait, on peut pas forcément dire ce qu'on veut. C'est vrai pour la musique. Est-ce que c'est vrai pour la littérature?
Ah oui, c'est archi vrai. Ouais. Ouais. Il faut même souvent revoir sa copie. Mais à rigueur, nous aussi, on demandera peut-être à un auteur des fois d'améliorer un passage, mais tout se fait dans le dialogue. On n'impose rien. Mais nous aussi, on va travailler avec l'auteur pour essayer d'améliorer le texte. Mais il n'y a pas de diktat. Et enfin, entre les grosses maisons d'édition et nous, il y a beaucoup de différences. Alors, je sais pas trop par où commencer, en fait.
On va peut-être en parler un peu après. On se fait une pause musicale.
Ouais, on va se faire une pause musicale avec les Captain Beefheart, et puis après, on va faire quelques lectures sur d'autres registres musicaux.
D'accord.
Voilà.
À tout de suite.
Heaven, sex is hell. Life is integrated, goes together so well and so on. Well, I will go on and do my washing.
Sur Radio Béton, le 93.6, dans l'émission Délivrez-moi. Et nous parlons de l'édition du livre. Voilà. Et avec Mathias et François Richard, qui sont éditeurs à Tours. Donc une maison d'édition qui s'appelle Caméras Animales. Et tout de suite, Manu va nous faire une lecture, donc un extrait d'un livre de Caméras Animales qui s'appelle La Révolte. Non, la musique.
Musique de la
musique
Révolte maudite.
De la Révolte maudite.
Voilà, exactement.
Dont l'auteur est Mathias Richard, d'ailleurs, voilà, un des éditeurs. Et donc c'est un extrait qui parle d'un groupe qui s'appelle Run DMC et plus particulièrement d'un morceau intitulé Raising Hell.
Yo. Saut en l'air, retombe en grand écart, tourne sur les fesses à toute vitesse, tourne sur les bras, tout le corps tourne à toute vitesse, s'arrêtant par à-coups et repartant à la même vitesse, à nouveau sur ses jambes, saut en l'air, quelques pas en rythme, quelques pas en avant, en arrière, de côté, sur place, avec une démarche de félin cybernétique, les muscles tressautent en cassure robotique et soudain se coulent en bond de jaguar. Breakdance. Run DMC. Cours DMC. CMC, marche la tête haute, marche à la panthère, ondule, balance, essaie de bouger de façon irréelle, sans les os. Et le microphone ne devint plus un simple accessoire, mais la proue pour fendre les ondes. Et la voix ne fut plus enfermée dans l'enluminure mélodique et retrouva sa vocation rythmique. Le bon rap n'est pas cool, tranquille, susurré. Le bon rap est du combat de gladiateurs. Raising Hell de Run DMC est à mon sens le morceau de rap, le carton du percute aligné impeccablement. Chaque syllabe est frappée, pratiquement chaque syllabe est accentuée. Rapper est un art martial. Il faut aller jusqu'au bout du souffle, essayer d'aller toujours plus loin avec toujours moins d'air. Rapper, c'est se transformer en rythme, dégager du rythme. L'essence de l'intérêt du rap est, à mon avis, contenue dans ce morceau de Run DMC, mais aussi dans Rockbox ou Microphone Find d'Eric B. and Rakim. Mais il s'agit déjà d'autre chose. Le rappeur doit frapper le plus fort possible à chaque seconde. Et s'il relâche, c'est tant pis pour lui. Beaucoup de rappeurs feraient mieux de réécouter ce morceau de Run DMC s'ils veulent connaître ce que veut dire cartonner. Les deux voix s'alternent, se chevauchent à la perfection. Elles s'avancent en gladiateurs, en boxeurs. Elles combattent pour rester debout, survivre à l'épuisement, continuer malgré tout, et l'on pense que c'est fini et que ce n'est plus possible. Et les voix reviennent, et elle pourrait revenir des heures sur un tel rythme. Le rythme dont on ne peut se lasser. Dis-moi si tu aimes. Écoute ça, ce sont les battements de la voix humaine. Elle dit tout, elle lance tout, elle se débarrasse de tout. Le jeu est qu'elle ne s'arrête jamais. Qu'il n'y ait pas de blanc, sinon des blancs qui tombent en rythme. Caisse claire, grosse caisse. Et là-dessus, caisse de résonance humaine transformée en clapet à rythme intenable. Et elle joue sa vie sur ses ouvertures et fermetures de clapet. Et elle a décidé que c'était là que ça se jouerait. Et il ne pouvait de toute manière en être autrement. Tout était trop cher, sa voix, sa propre voix. Au moins, on ne l'a pas achetée, on ne l'a pas choisie. Mais au moins, elle ne coûte rien. Et la voix, c'est tout le corps qui vibre, la langue, le cerveau, les yeux, ce qu'on a dans le ventre, la poitrine, le dos, le cou. Et l'on voudrait que tout cela ne soit plus qu'un rythme sur un fil, le plus loin possible dans le sans fin, sur le chemin étroit où l'oxygène commence à manquer. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter si l'on est fier. Il faut pousser au maximum la capacité à sortir des syllabes des poumons pour tout oublier, tout remettre sur table, émerger, déchirer les fins voiles invisibles qui nous enserrent de partout. Il faut continuer sur l'étroit chemin qui est devenu un fil, là où ton chute, abandonne, faire rouler sa langue, claquer sa glotte et repartir en appuyant chaque son de tout son corps. Il faut qu'on sente la lourdeur du corps dans chaque mot, le poids du corps éployé, arc-bouté, pour envoyer chaque nouvelle flopée de phrases, des charcutages et découpages de rubans rythmiques qui suivent la fantaisie de l'organisme. Pour que les bouches éclatent comme des massues, là où on les attend et là où on ne les attend pas. Là où on ne les attend plus, rebondir, repartir comme si de rien n'était, grâce à un reste de poche d'air miraculeuse, même si les mouches et les étoiles et la tête tournent, qu'il ne soit pas dit que l'on n'aura pas donné, jeté, tenté. Le scratch. Fermeture éclair, tremblement de terre contrôlé. Le scratch. L'outrage fait un disque, étranglement recyclé en son musical. L'outrage créateur, l'outrage hommage, sacrifice de disque nécessaire à la musique, le disque, le diamant, la tête de lecture, la platine, non plus objet destiné à la simple présentation d'œuvres sonores enregistrées, mais instrument producteur et modificateur à leur tour. Faire de l'art avec l'amplification de frottement, l'amplification des raclements d'un saphir contre la venelle d'un vinyle. Les supports de l'écoute consommante, détournés en actifs foyers de commando et lance-fusée. Le scratch, de la passivité à l'activité, reprise en main de soi-même, action sur le monde, destruction des canons musicaux, des musiques diffusées. Le scratch assez lent, splendide et massif, après le premier couplet de Rising Hell, suivi d'un riff de gratte merveilleusement basique, un moment parfait.
C'était dur, hein?
I'm
Et donc, retour dans l'émission Délivrez-moi. Nous sommes en compagnie de François et Mathias Richard autour du livre Musique de la révolte maudite. Et François va nous faire une petite lecture. François, à toi de jouer.
Peut-être que dans l'infinité des mondes, il n'en est qu'un où une telle chanson existe. Ce monde est si intense. Il y existe de telles choses. Elle ne se conclut en rien, elle s'intensifie, se regroupe, s'affaisse, s'éparpille, se démultiplie. Parfois, l'on se trouve traversé par l'une de ces choses, qui passe et secoue tout le corps, et cela fait l'affaire d'une vie. Il peut essayer d'oublier la chanson, il peut essayer d'y répondre, mais rien d'autre que sa propre dissolution ne pourra mettre un terme à cette vibration dans laquelle il respire et se meut, à laquelle il cherche à échapper, en touchant à ses doigts les murs de bâtisse, le sol des champs, vibration qu'il aime, et dont il cherche à se débarrasser comme d'un amour trop fort et malaisant, comme d'un vampire et d'une chimère. Cette chanson ne lui aura peut-être pourtant pas tant sucé le sang que donner le rythme de sa vie et de ses pas, un certain port de tête et un regard vague, donner quelque chose à quoi se raccrocher au cœur de certaines nuits. Il pense à la chanson plus qu'aux êtres qui l'ont générée. Il pense que ces êtres se sont trouvés là, ensemble, en un certain point, et ont produit cette chose sans tout à fait réaliser ce qu'ils faisaient. Non pas qu'il les imagine aussi conscients qu'il soit possible de l'être, mais qu'il est impossible de sciemment produire une chose pareille. Il lit le livret des paroles, et cela le confirme dans cette idée. Les paroles qu'il lit ne sont pas celles qu'il entend. Un brouillage, une distorsion sépare les deux d'une éclipse définitive. Là où il entend, elle lui prend son corps, il lit, elle est propre enfin. Les êtres qui ont produit cet enregistrement ont, plus que de la musique, produit une certaine combinaison de luminosité, d'ombre et de couleur, une certaine manière de regarder les murs et d'infléchir son corps. Des reflets dans les fumées qui sortent des respirations. L'adolescence qui ne finira jamais, le rythme, la sueur, le battement de cœur.
Les supermarchés ne sont plus que des cadavres en pâture à des charognards dont le sang pulse et la mâchoire énorme pend et bave. Je continue ce texte sur Ossico. Ossico, bande sonore pour la mise à sac des villes, quand la radio des supermarchés, détraquée, grésille puis s'éteint. La voix d'Ossico est une foule affamée qui se jette en ramas de hyènes sur les commerces, les épiceries, en arrachant des morceaux comme des chiens des rues d'une charogne aux dents déjà recouvertes par des prélèvements de chair. La voix d'Ossico est une foule affamée qui s'entre-déchire pour mieux se repaître de cadavres encore frayés, parfois pourris, jonchant les avenues et les ruelles. La voix d'Ossico est la panique de voir sa maison prise d'assaut par une meute inhumaine et affamée. La panique de voir les fenêtres éclater en gerbes de bois et de verre, et les portes pourtant verrouillées céder une à une sous la pression folle de ces corps hallucinés qui veulent manger. La voix d'Ossico est le sentiment de ce moment où, acculé dans la dernière pièce, la pièce centrale de la maison, traqué et barricadé entre des parois si violemment tambourinées et frappées qu'elles ne vont plus tarder à craquer, l'on se prépare, un couteau dans chaque main, à tuer et à mourir.
Et donc, toujours dans l'émission Délivrez-moi, il va être l'heure de se dire au revoir. On était donc avec François et Mathias Richard pour le livre Musique de la révolte maudite que vous trouvez à la librairie Le Livre. L'éditeur, c'est Caméras Animales, donc ils sont tous les deux tourangeaux. Voilà, et puis bah, on va se dire au revoir et puis on va finir cette émission par une petite lecture, un hommage à Arnaud Pelletier, donc décédé et auteur du livre Vitriol par François.
Ok, je précise Caméra S, Animal ES, Caméras Animales, voilà. Et il y a un site qui est le www.camerasanimales.com.
Et j'en profite pour donc te remercier chaleureusement de nous avoir invités.
Voilà. Bah, c'est rien, c'est aussi fait pour ça, Radio Béton. c'est ouvert. Voilà.
Merci à toi.
Au revoir à tous et puis à la prochaine. Voilà, on finit sur cette petite lecture de François Richard.
Oui, donc un extrait du livre Vitriol d'Arnaud Pelletier. Donc, qui va être mort il y a bientôt un an.
Ouais, donc c'est votre troisième ouvrage sorti, hein, c'est ouais. Ça
troisième ex-aequo.
D'accord, très bien. Allez, on vous dit au revoir et on se quitte sur cette lecture du livre Vitriol.
La mort est une maladie contagieuse. Elle vous a contaminé. Ça fascine, ça terrifie. C'est vertigineux, ça arrivera tôt ou tard. Pour le moment, il faut écrire le plus possible de mensonges, la vérité. La vérité ? Impossible. On ne sait pas la vérité sur la mort. Mais vous n'êtes pas loin d'en savoir un peu plus. Car déjà, vous avez vu son corps privé de vie. Quand vous l'avez vu à la morgue, c'était le corps marmoréen et le corps uniquement qui était là. Et vous vous êtes senti idiot devant ce corps dur, froid, livide. Il n'y avait plus de paroles possibles. Elle en était incapable, et la vôtre, vous avez été subtilisée par son absence de paroles à elle. Vous attendiez, mais rien ne venait. Même vos baisers n'avaient plus de sens. La mort n'a pas de sens en soi, elle a celui que l'homme et ses symboles lui confèrent. Mais devant le corps de l'aimé, vous oubliez les symboles, le langage, la foi. Vous n'avez qu'une conviction, son corps est sacré. Et ce hiératisme provient de la violence qu'il dégage. Car un corps mort dégage plus de violence que n'importe quelle parole, qu'il s'agisse d'une imprécation ou d'une prière. La mort, c'est un excès de vie. Vous voulez avoir une connaissance plus intime de la mort et, si possible, la magnifier. Les premières statuaires préhistoriques représentaient des divinités engendrées par la peur de la mort. Vous savez que vous pouvez mourir plusieurs fois et rester vivant. Vous pouvez mourir quand vous l'avez décidé. Et puis cette hypothèse. Mourir en pleine santé, au sommet de la vie, à l'acmé de l'amour. Périr d'une insupportable excitation des cellules qui font la vie. L'instant d'après, vous voudrez prononcer les derniers mots de l'humanité. Vous savez très bien que vous écrivez parce que vous avez peur de la mort et de la folie.